vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
Elle a 6 ans lorsqu'elle entend pour la première fois une clarinette en concert et elle pleure. Cela change sa vie. Elle devient obsédée par cet instrument et sera clarinettiste professionnelle. Jusqu'à un pneumothorax qui la frappe à l'âge de 25 ans avec des conséquences tragiques. Elle ne peut plus souffler comme avant dans un instrument et sa carrière professionnelle de clarinettiste de concert est achevée. Que faire lorsque la passion de sa vie devient inaccessible? Comment se reconstruire après cela? Morgane Raoux nous l'explique, elle qui est parvenue avec brio à rebondir. Elle est l'auteure de « Je ne souffle pas, je chante », l'étonnante histoire de Madame Clarinette aux éditions Michelon.
Vous écoutez « Vivre c'est épatant » avec Carole Clémence.
Vivre c'est épatant avec Morgane Raoux, Je ne souffle pas, je chante, l'étonnante histoire de Madame Clarinette aux éditions Michelon. C'est son histoire qu'elle raconte dans ce livre. Elle est notre invitée aujourd'hui, Morgane Raoux. Vous étiez clarinettiste en concert professionnel, c'était vraiment une vocation, un métier qui vous tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, que faites-vous ?
Alors aujourd'hui, je suis toujours musicienne et je consacre ma vie de musicienne à amener la musique aux enfants. Donc j'écris des spectacles musicaux pour enfants, des chansons, des albums, des livres. Et en fait, tout ce qui est lié, c'est la musique et les enfants.
Oui, et vous êtes professeur également ?
Oui, je suis prof, oui.
Voilà.
Professeur
pour adultes.
J'étais professeur de clarinette pendant des années en conservatoire et maintenant en fait je me suis vraiment ce que je suis. Je ne suis plus que, mais c'est un choix prof d'éveil musical pour les enfants.
Pour les enfants, donc plus pour les adultes.
Plus d'adultes.
D'accord. On va parler de votre parcours actuel, mais on va commencer par votre histoire, puisque c'est l'histoire de... C'est ce qui est dans votre livre, Je ne souffle pas, je chante. Vous remontez vraiment à l'enfance, vous êtes dans une classe ZEP, zone d'éducation prioritaire, donc ouais. C'est un peu difficile. Donc il y a des moyens supplémentaires qui sont mis dans certaines de ces classes, justement, pour aider les élèves. Et on vous propose d'intégrer une classe musicale, c'est ça ?
Oui, en fait, dans l'école maternelle où j'étais en moyenne section, on nous a proposé, et je me souviens très très bien, on l'a d'abord proposé aux enfants, puis aux parents, d'intégrer la classe qui allait être la classe musique. Et tous les jours, on avait une intervenante musicale. À l'époque, on disait la prof de musique. Et en fait, c'était une musicienne professionnelle qui venait tous les jours nous faire une heure de musique dans un quartier où les enfants n'auraient peut-être pas eu accès à la musique dite savante par eux-mêmes.
Et c'était dans quelle ville ?
Alors, c'était en Auvergne, c'était à Clermont-Ferrand.
D'accord.
Et ce programme a été mis en place sur plusieurs années et dans deux quartiers chauds,
oui.
comme on disait à l'époque, de cette ville, un au nord de la ville, un au sud. Et les résultats ont été les mêmes dans les deux quartiers HLM.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les enfants ont appris à lire beaucoup plus vite.
C'est fou, ça. Hein. Je l'ai lu dans votre livre. Je me suis dit, elle exagère peut-être
non,
un peu.
Non, j'exagère pas parce que c'est les mêmes mécanismes. La lecture, le langage et puis l'apprentissage de la musique, ça actionne les mêmes zones. C'est-à-dire, on apprend à enchaîner une note puis une note, un mot puis un mot, une lettre puis une lettre. Et c'est la même chose. Puis surtout, je crois que ça mettait une ambiance... terriblement enthousiaste dans la classe et,
oui, oui.
Et du coup on était dans une ambiance on était là pour accueillir tous les apprentissages quoi.
Oui, alors ces cours, c'était quoi? Des cours de chant, des cours de pratique d'instruments musicaux?
Alors, ça passait beaucoup par le chant, bien sûr. Ça passait par le chant, ça passait par l'expression corporelle aussi. On jouait des instruments à percussion. Parce que, bien sûr, on était 25 enfants, donc on ne pouvait pas avoir des cours individuels. Puis on était trop petits pour apprendre, par exemple, la trompette ou la clarinette.
Oui, oui.
Et elle aiguisait notre perception, c'est-à-dire fallait qu'on reconnaisse des sons. C'était vraiment les bases de l'éveil musical. Et puis surtout, elle mettait une joie de vivre. Elle transmettait, cette prof de musique transmettait son amour pour la musique et c'était vraiment contagieux.
Oui, oui, c'est formidable. Ça vous a vraiment aidé. Ça a aidé aussi vos camarades qui étaient peut-être en difficulté également. Et vous avez appris à lire plus vite. Mais ça vous a donné le goût de la musique.
Oui, ça m'a donné le goût de la musique. Peut-être que je l'aurais eu quand même, mais en tout cas, ça m'a donné le goût de la musique classique, parce que sinon, on avait accès, bien sûr, à la variété, à tout ce que la télé, à l'époque, parce qu'on écoutait on regardait beaucoup la télé, mais la musique classique ne me serait peut-être pas parvenue. Et
oui.
comme elle était violoniste, cette intervenante, et qu'elle aimait la musique classique, et elle nous en faisait beaucoup écouter, puis elle nous amenait au concert.
Oui, c'est une sacrée découverte, la musique classique. Et justement, vous allez à un concert, elle joue, justement, cette intervenante musicale de votre école, elle joue, et vous êtes frappé, non pas par elle, mais par un autre musicien.
Oui, elle joue dans l'orchestre symphonique, donc dans l'orchestre qui accompagne un soliste qui est un clarinettiste. Et là... vraiment, je tombe en amour avec le son de cet instrument parce que c'est doux, c'est puissant et c'est doux en même temps. Et puis, il se trouve qu'il jouait le concerto de Mozart, c'est quelque chose de très beau. Et voilà, je me suis dit, c'est cet instrument que je veux faire. Et puis, je crois que j'aimais souffler aussi. J'aimais beaucoup souffler.
Oui.
Je sifflais tout le temps, j'aimais souffler.
Ça vous a vraiment touché et vous avez pleuré, vous le dites dans votre livre.
Oui, j'ai pleuré d'émotion et aussi de soulagement parce que ça m'a détendue. J'étais un petit peu j'étais un petit peu peut-être abîmée par une agression que j'avais subie quelques mois plus tôt alors que je retenais un petit peu tous mes sens, de lâcher prise avec la beauté de cet instrument, en tout cas de ce moment, ça a ouvert les vannes et je me souviens très très bien d'avoir pleuré, mais des larmes qui me faisaient du bien.
Oui, des larmes face à la beauté de la musique de la clarinette.
Oui.
Et alors vous décidez de faire de la clarinette.
Voilà, je décide de faire de la clarinette et j'ai de la chance que mes parents... me suivent. Ma mère, du coup, n'arrêtait pas de dire que c'était le plus bel instrument du monde aussi. Enfin, j'ai de la chance. Mes parents ont vraiment soutenu toutes les passions de leurs enfants. Enfin, alors moi, c'était la musique. Et ils ont vraiment joué le jeu. Donc,
Mais parce qu'ils auraient pu se dire, ça va lui passer.
Oui, ils auraient pu se dire ça. Mais je crois que c'était évident que ça n'allait pas me passer. J'écoutais du coup beaucoup de disques de clarinette et puis quelques mois après j'ai commencé l'instrument, arrivé en CE1, voilà.
Donc vous étiez dans une classe particulière.
Alors après cette expérience en école maternelle et en CP où c'était la musicienne intervenante qui venait enseigner la musique aux enfants, elle a dit à mes parents que c'était bien si je passais le concours pour rentrer dans une classe à horaire aménagé, musique. Là, du coup, ce sont les enfants qui ont cours dans les mêmes locaux que le conservatoire. Il y a une école, il y a le conservatoire. Et là, je me suis retrouvée dans une école que d'enfants musiciens. Et c'était, formidable, quoi. Formidable.
Oui. C'était un peu élitiste, c'était comment ?
Non, parce que c'était plutôt c'était les années 70, donc c'était plutôt des les parents, il y avait quelques babacools, mais il y avait surtout des parents qui avaient envie d'offrir quelque chose de plus large à leurs enfants que la scolarité dite normale. Et aussi, forcément... des parents qui peut-être eux-mêmes avaient quand même une attirance pour la musique, ça se peut.
Oui, mais vos parents n'étaient pas du tout dans le milieu de la musique, n'étaient pas, connaisseurs du tout.
Non, tous les deux ne faisaient pas, enfin aucun des deux n'avait appris la musique. En revanche, tous les deux étaient prêts à nous ouvrir sur une éducation artistique.
Oui.
Ma mère peignait, voilà.
Et donc, vous apprenez la clarinette et ça se passe très bien puisque vous êtes douée.
Ben oui, disons que je pense que la motivation a fait que cet instrument, j'ai accroché très vite et j'ai progressé très vite. Mais je pense que tous les enfants, tous ceux qui sont motivés par un apprentissage, du coup, apprennent très vite. Je ne sais pas si j'étais douée, en tout cas, j'ai eu la sensation que c'était fait pour moi.
Oui, oui. En tout cas, vous arrivez première rapidement aux examens de clarinette.
Non, mais curieusement, ça a attisé autre chose chez moi, mon envie de compétition. Non seulement je voulais jouer de la clarinette, mais je voulais gagner le concours de fin d'année. Je me serais peut-être épanouie aussi dans le sport, en compétition, mais j'ai associé la musique à, bien sûr, l'apport artistique, mais aussi l'apport de se dépasser soi-même.
Voilà. Oui. Et alors, comment ça se passe pour devenir clarinettiste professionnel comme vous l'avez été? Est-ce qu'il faut intégrer des écoles spécialisées? Quelle est la scolarité?
Alors, le schéma classique, en tout cas en France, c'est on finit l'école de musique ou le conservatoire qui est dans notre région. Et puis après, on passe des concours pour entrer dans les conservatoires supérieurs, comme le Conservatoire supérieur de Paris ou le Conservatoire supérieur de Lyon. Après, il y a plein de très, très bons conservatoires en dehors de ces deux grandes écoles. On choisit aussi... le prof, c'est-à-dire moi je sais que je voulais travailler avec tel soliste, donc j'ai frappé à la porte de la classe des clarinettistes avec lesquels je voulais travailler.
Oui, et vous n'avez appris qu'un instrument ?
Alors oui, bizarrement, j'ai fait du piano aussi un peu à côté, je faisais de la flûte à bec à l'école avec l'instituteur, pas avec le prof du conservatoire, mais bizarrement en France... À l'époque, en tout cas, il fallait se spécialiser.
Tout de suite.
Ouais, mon prof de clarinette, par exemple, m'interdisait de faire du saxophone et même la flûte à bec. Il disait non, tu ne dois pas en faire, ça va modifier ton embouchure. Parce que c'était vraiment la recherche de la perfection. Donc, il fallait absolument que ma bouche ait exactement le geste qu'il fallait pour pouvoir produire le plus beau son, le plus souple. Et donc ça, c'est vraiment à la française, parce que j'ai travaillé avec des Américains. C'est un peu le contraire. C'est plutôt ouvrez-vous à tous les instruments qui sont de la même famille que votre instrument. Les clarinettistes que j'ai croisés, qui avaient eu une formation aux États-Unis, ils étaient tous clarinettistes, saxophonistes, flûtistes.
C'est le contraire. C'est l'inverse.
C'est le contraire. Ouais.
Et qu'est-ce qui est le meilleur à votre avis ?
Et ben, moi, je continue à dire que de se spécialiser, ça permet d'être vraiment très 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 fort, très pointu, parce que on peut peut-être pas tout faire dans la vie, mais aujourd'hui avec du recul je me dis mais la perfection parfois on s'en fout un peu, ce qui est important c'est l'épanouissement, et je regrette finalement de pas avoir eu dès l'enfance de pas avoir été une touche à tout, même si je me suis rattrapée après, mais j'ai fait du saxophone toute seule après.
D'accord. Ouais. Alors vous, à l'âge adulte, vous rentrez au conservatoire, vous passez l'examen.
Oui. Enfin, c'est après quand j'ai quitté l'Auvergne, je me suis retrouvée à Paris et j'ai présenté plusieurs concours pour rentrer dans plusieurs classes. Je rentre dans un conservatoire et en même temps, j'avais envie de faire un peu de musicologie, donc je me suis inscrite à la fac, à la Sorbonne, donc je faisais un double cursus, quoi, le conservatoire et la fac, et puis voilà, au conservatoire c'était que des grands élèves qui voulaient en faire leur métier, donc il y avait...
Ce que vous vouliez faire ?
Ah oui, mais je crois que j'ai toujours su que mon métier ce serait la clarinette.
Oui, oui, et vous y êtes parvenue ?
J'y suis parvenue et donc je jouais avec différents orchestres symphoniques. Je cachetonnais, ça veut dire je faisais des cachets.
Oui.
Je faisais des remplacements. On m'appelait et j'allais remplacer des clarinettistes qui n'étaient pas libres, ou alors pour un projet précis. Par exemple, pendant 3-4 mois, il y avait un projet autour de la vie parisienne d'Offenbach. Là, ils ont monté un orchestre et j'ai fait partie de cet orchestre et on est parti jouer. Voilà, donc j'ai fait mon métier de clarinettiste.
Vous en viviez ?
Oui, j'en vivais et en même temps, je donnais des cours. J'ai toujours donné des cours. Même quand j'étais ado au conservatoire de Clermont-Ferrand, à 15 ans, je prenais ma mobylette en sortant de l'école et j'allais donner des cours dans une petite école d'une petite banlieue clermontoise. Et
oui.
Ouais, j'ai toujours donné des cours.
Oui.
Enfin, c'était mon argent plus que de poche. C'était
en tout cas, une passion pour la musique et oui. pas uniquement pour la clarinette.
Oui, ça c'est sûr. La passion pour la musique, ça c'est sûr.
Et alors, lorsque vous avez 25 ans, vous avez un pneumothorax, c'est-à-dire que l'un de vos poumons se détache.
Oui.
Et là, vous ne pouvez plus souffler, alors c'est catastrophique.
Oui, ben, d'abord, ça fait très mal. c'est le poumon qui se décroche, enfin, le poumon, non, la plèvre qui se détache de la paroi. Et pour faire. En gros, y a un poumon qui se rétracte et qui ne fonctionne plus. Donc oui, j'étais hospitalisée et après je ne pouvais plus souffler dans ma clarinette, en tout cas plus avec la force, la pression.
Parce qu'il faut beaucoup de force.
Il faut beaucoup de
pression.
On
imagine que pour le saxo, il faut beaucoup de force, mais pour la clarinette, on n'imagine pas.
Plus le trou est petit pour mettre l'air dans l'instrument,
oui.
Plus ça demande de la pression. Parce qu'en fait, on prend de l'air, on l'envoie dans le bec, dans l'embouchure, et si le trou est large, comme dans, par exemple, une flûte traversière, tout l'air part et ne reste pas comprimé dans les poumons. Alors que le hautbois, je crois que ça doit être le pire, le hautbois, parce que c'est vraiment une toute petite sortie, la clarinette, ça comprime énormément. En fait, on met beaucoup, beaucoup beaucoup d'air en résistance.
Oui, et donc il fallait beaucoup de pression, oui. Justement. Et alors, au début, vous ne pouvez pas, mais vous essayez justement de reprendre ce métier de clarinettiste.
Oui, j'ai essayé et puis ça n'a pas tenu. J'ai eu un deuxième pneumothorax. Et en fait, voilà, j'ai compris qu'il fallait absolument... réviser ma façon de jouer ou arrêter, parce que les médecins en fait m'avaient dit qu'il fallait que j'arrête, que je pouvais plus faire de la clarinette.
Sinon c'était vous risquiez d'y passer.
Ben disons que mes poumons ne tenaient pas, donc oui, c'était mettre ma vie en danger, c'était surtout impossible, puis ça me faisait très mal surtout.
Oui.
Et j'ai eu la chance, j'ai d'abord eu une opération qui a été vraiment efficace au bout du troisième pneumothorax, et puis surtout j'ai rencontré un clarinettiste klezmer qui m'a montré comment souffler dans une clarinette sans souffler comme une malade, juste en mettant ce qu'il faut d'air pour qu'il y ait du son et en adaptant mon matériel.
Voilà, oui.
Parce que
Mais avec cette technique qui fonctionne, vous ne pouviez plus faire de concert comme avant, c'était pas possible. Vous avez plus le niveau.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir tous ces arrêts, ces hospitalisations, de toute façon, ça avait mis un frein à mon évolution. C'est sûr que j'ai arrêté les concours d'orchestre, j'ai arrêté en tout cas de ce que j'appelle la clarinette de compétition, la clarinette comme un athlète de haut niveau. Mais en revanche, ça ne m'empêche pas de jouer moins longtemps. Donc je joue plus des heures et des heures comme je faisais avant. Je joue des morceaux qui demandent moins de moins remplir. Par exemple, jouer des sonates de Brahms, ça demande un effort au niveau de la colonne d'air que aujourd'hui j'ai du mal à fournir. Voilà.
Oui.
Mais par contre, jouer un mouvement d'une sonate de Brahms, oui, ça marche.
Oui, oui. Donc vous vous adaptez. On va continuer à parler de votre parcours, Morgane Raoux. Je ne chante pas, je ne souffle pas, je chante. C'est votre histoire aux éditions Michelon qu'on raconte sur Vivre FM.
Vivre FM, la radio de toutes les différences.
La vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon art et puis ma joie. je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes, je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon. Chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi.
Et même après, je t'aimerai, Oshi sur Vivre FM. On retrouve notre invité Morgane Raoux. Je ne souffle pas, je chante. L'étonnante histoire de Madame Clarinette, c'est son histoire qu'elle nous raconte aux éditions Michalon, destinée à être clarinettiste. C'est sa passion, la clarinette. Elle fait des concerts, elle vit de cette profession clarinettiste dans ses concerts. Et puis un pneumothorax, plusieurs, même trois pneumothorax qui arrivent et qui mettent un frein à cette carrière. Est-ce que vous pourriez encore jouer dans un orchestre aujourd'hui, Morgane?
Ça m'arrive de jouer encore dans des orchestres symphoniques. Oui, je peux le faire, mais en tout cas, j'ai choisi une autre voie. Voilà, parce que quand même, de jouer dans un orchestre, ça, si c'est trop longtemps, trop d'heures, trop soutenu, ça me fait mal quand même.
Voilà. Oui, ça vous fait mal. Et vous auriez un risque d'avoir un autre pneumothorax?
Oui, en tout cas, j'ai cette épée de Damoclès tout le temps. Quand je joue trop, d'une façon trop soutenue. C'est-à-dire, si je peux jouer pendant des heures, si c'est de la musique qui n'est pas de la musique symphonique. Voilà, par exemple, le klezmer, ça ne me fait pas mal. Ou encore, quand je joue avec mes amis, je fais partie d'un quatuor d'humour musical où on joue un peu de tout, on détourne les classiques, on joue du jazz. Et là, voilà, y a une légèreté dans l'interprétation qui fait que ça ne me fait pas mal.
Oui. Alors, j'imagine que ça a dû être très dur de devoir abandonner cette carrière de clarinettiste de concert. Ça a dû être très dur. Comment vous avez vécu les choses et comment vous les avez surmontées?
C'est vrai que ça a été très dur. Et en fait, les choses arrivent d'un coup. Le chirurgien m'annonce que je ne pourrais plus jouer de la clarinette après mon premier pneumothorax. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je pense qu'il se trompe. Il y a forcément une façon d'y arriver. Et j'ai toujours gardé un petit espoir, même si j'étais vraiment, triste que ça arrive. Mais en fait, petit à petit, du coup, je me suis résignée, mais petit à petit. Et voilà, je me suis aperçue qu'en effet, je pourrais plus passer des concours d'orchestre, que je pourrais plus jouer pendant des heures des longues phrases où on respire pas. Je me souviens, j'avais voulu jouer une œuvre de Messiaen et il y a des phrases qui sont mais interminables, qui sont très belles, mais on ne peut pas respirer au milieu, sinon on gâche l'effet. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, voilà, c'est clair, je ne pourrais plus jouer du Messiaen.
Oui.
Alors, ça veut peut-être rien dire pour la plupart des gens, mais voilà, pour moi, ça a été clair ce jour-là. Je me suis dit, je suis passée de l'autre côté, je suis passée du côté de la clarinette, pas de la clarinette de compétition.
Voilà. Oui. Et comment on vit avec ça? Comment on fait avec?
Eh bien, la vie, elle est... épatante, hein, c'est le titre de votre émission. Parce que en fait, ça c'est venu pratiquement au même moment où j'ai été enceinte. J'ai eu un enfant assez tôt finalement, et j'ai eu envie de lui chanter des chansons. Et je me suis aperçue que chanter, c'était aussi bien sûr faire de la musique. Et puis je suis rentrée comme ça dans le milieu de la musique pour enfants. Et puis j'ai continué d'écrire des spectacles pour les enfants, des disques, et je me suis épanouie là-dedans, et je suis très heureuse, et il y a pas un moment où je pleure sur mon sort, quoi.
Oui, oui. Et cette nouvelle carrière de chanteuse de chansons pour enfants, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant ?
Et non, je pense que je me serais jamais permise de m'auto-proclamer chanteuse, parce que j'étais clarinettiste. Et là, puisque j'avais plus ma clarinette, mais que j'avais besoin quand même de continuer à m'exprimer musicalement, c'est passé par le chant. Et c'est vrai que ça a rempli aussi un vide, ça c'est clair. Mais je me suis aperçue que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup amener la musique aux enfants. Et comme mon dada, c'est la musique classique, non seulement je fais des chansons pour les enfants, mais je fais aussi des spectacles ou des disques pour les amener à aimer la musique classique aussi. Voilà.
Donc, oui. Oui, et d'ailleurs, il y a la petite fille qui est née dans l'orchestre. Alors, je me souviens plus du titre.
Bravo. Il y a un spectacle qui est aussi le titre d'un album de chansons, un conte musical qui s'appelle L'enfant de l'orchestre. Et ça permet de découvrir les plus grands airs de musique classique à travers l'histoire d'une petite fille qui est née dans un orchestre symphonique.
Oui, et alors ça, vous avez tout créé de A à Z, les chansons, les textes, la musique, vous avez tout créé.
Oui, j'ai écrit l'histoire, les chansons, enfin, j'ai surtout pris pour les chansons les grands thèmes de Mozart,
c'est plus facile.
et compagnie. J'ai une magnifique arrangeuse qui s'appelle Olga Vassileva, qui m'a aidée aussi pour arranger les chansons, faire les beaux accompagnements. Et voilà.
Et ça fonctionne ? Les parents achètent ?
Oui, ça fonctionne très bien. Les parents amènent leurs enfants voir le spectacle. Et le disque, l'album, c'est très bien vendu. Enfin, se vend toujours d'ailleurs. L'enfant de l'orchestre, ça marche bien.
Donc, on peut le trouver où, cet album ?
Alors, on peut le trouver chez tous les disquaires et bien sûr sur toutes les plateformes. C'est un peu comme le livre, en fait. Le livre et le disque se vendent presque aux mêmes endroits.
Oui, alors le livre aux éditions Michalon, je ne souffle pas, je chante. On peut le trouver aussi sur des plateformes.
Oui, on le trouve dans toutes les librairies, chez les... et voilà, sur les plateformes et sur tout ce qu'on peut acheter par Internet aussi.
Oui.
Voilà, les deux grandes plateformes qui marchent bien, on peut commander le livre dessus.
Comment on écrit des chansons pour les enfants ? Est-ce que vous pensez à vos propres enfants lorsque vous les écrivez ?
Disons que quand mes enfants étaient petits, tout petits, c'est clair que mes chansons étaient soit pour accompagner leur vie qui arrivait, soit des souvenirs de mon enfance. Parce que, bien sûr, de devenir parent, ça réveille aussi des souvenirs de notre propre enfance. Donc, c'était un mélange de mes souvenirs et de leur vie qui commençait. Et puis, au fur et à mesure, ils ont grandi de plus en plus. Maintenant, j'ai des grands enfants, enfin, qui sont plutôt ados, voire adultes pour ma fille. Et du coup, comme j'ai beaucoup d'élèves entre les mains, puisque je fais des ateliers d'éveil musical, eh bien, les chansons, après, je les ai destinées à mes petits élèves. Donc, je m'inspire toujours, parce que j'écris toujours des chansons, de ce qu'ils vivent, de ce qu'on fait pendant les ateliers. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Écrire pour les enfants, j'y arrive tant que je suis entourée d'enfants. Peut-être que si on me coupait de relations avec les enfants, je me mettrais à écrire peut-être pour les adultes, mais j'y arrive pas très bien.
Oui, oui. Il y a une joie de vivre qui est présente, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a une joie de vivre et puis il y a un décalage qui est possible avec les enfants et puis il y a une tendresse. Voilà, moi, la tendresse, c'est quelque chose qui est important. Et ce que j'aime chez les enfants, c'est que la tendresse ne rime pas avec la niaiserie, alors que les adultes, parfois, quand on est tendre, on peut être qualifié d'un peu, cucu la praline. Et moi, je me sens pas cucu la praline.
Voilà. Oui, oui, mais vous ne l'êtes pas, Morgan Raoult. Alors, le titre de votre livre, Je ne souffle pas, je chante, l'étonnante histoire de Madame Clarinette. Madame Clarinette, c'est toujours un nom qu'on vous donne encore aujourd'hui ?
Oui, Madame Clarinette, c'est mon surnom parce que même si je ne joue pas autant de clarinette qu'avant, j'en joue toujours et sur scène, je monte toujours sur scène avec ma clarinette. C'est-à-dire, il y en a dans mes chansons, entre les chansons aussi, parce que c'est difficile de chanter et de souffler en même temps, mais j'ai toujours ma clarinette avec moi. D'ailleurs, là, je l'ai avec moi. Enfin, je l'ai toujours.
Oui, vous avez une grosse valise.
Oui,
elle est dedans.
Dans ma valise, il y a ma clarinette aussi.
D'accord.
Parce que tous les jours, j'en joue. Et puis, tous les ateliers que j'anime, je joue de la clarinette. Je suis allée au Sénégal faire une tournée une année. Et je jouais de la clarinette. Et à la fin du concert, enfin, on était dans une école. Et à la fin du spectacle, les enfants ont crié « Vive Madame Clarinette !» Et c'est resté mon surnom, Madame Clarinette.
C'est joli.
Bah oui, dans le monde. Surtout, j'étais super fière parce qu'on était deux à faire ce spectacle. Il y avait un garçon et moi. Et il disait « Monsieur et Madame Clarinette ». Le garçon s'appelait aussi Monsieur Clarinette.
Très bien.
Alors qu'il jouait de la flûte. Mais,
voilà. C'est vous qui aviez marqué.
C'est moi qui avais marqué, j'étais très fière.
Oui. Et justement, cet atelier au Sénégal, quelle différence vous faites entre les petits Français et les petits Sénégalais par rapport à la musique?
Alors, franchement, pour moi, c'était une plongée dans quelque chose de très nouveau hein, quand on était au Sénégal, parce que l'école où on est allé jouer, en tout cas le premier spectacle, les enfants étaient super heureux qu'on vienne jouer, mais l'instit était super dur. Il prenait une chambre à air de vélo et il claquait en l'air comme ça, il disait « Allez, reculez !» Et en fait, il nous disait « Mais c'était... » Il ne les touchait pas, hein, mais il jouait à l'instit sévère qui devait gérer les enfants. Et donc, je me suis dit « Mais non, on va pas pouvoir faire comme ça. » Et en fait, je me suis aperçue que c'était plus dans le folklore, c'est-à-dire l'instit devait faire le prof sévère.
Prof, mais voilà. Oui.
Donc voilà, c'était la première sensation. En arrivant, je me suis dit, oh, ben mince, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et après, dès qu'on a commencé le spectacle, les enfants, mais ils étaient, au tout début, ils étaient plutôt très silencieux, presque un peu impressionné par ma clarinette, les trucs, peut-être ça faisait c'était un peu sonore, enfin ils connaissaient peut-être pas trop le son de la clarinette. Et puis après ils se sont mis à vraiment, et on les a embarqués, ils frappaient dans les mains, l'instit a lâché sa chambre à air pour attraper un djembé, et voilà, tout le monde s'est détendu. Et la musique a vraiment fait le chemin, on s'est tous retrouvés à partager ensemble ce moment musical.
Quoi. Oui, alors on chante toujours les vertus de la musique pour l'apprentissage, c'est vrai. Dans vos ateliers d'éveil musicaux, vous voyez des choses comme ça?
Oui, dans les ateliers, c'est ce que je raconte dans mon livre. C'est incroyable, ça m'arrive régulièrement que des parents me disent, vous savez, mon enfant est très très timide, la maîtresse trouve qu'elle ne parle pas beaucoup en classe. On espère que ça ira. Il me laisse l'enfant et dès qu'elle commence à chanter, ou qu'il ou elle commence à chanter ou prend des instruments à percussion, il y a plus l'ombre d'une timidité. L'enfant s'exprime. C'est un média incroyable, la musique. On n'est pas... Voilà, donc ça pour moi, c'est quelque chose de magique. Et à l'inverse, des enfants dont les parents me disent qu'ils sont turbulents, qu'ils n'arrivent pas à les canaliser, en cours, ils sont très concentrés, très appliqués, parce qu'ils sont motivés par le fait de faire de la musique. Et en plus, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait de la musique, sinon c'est du bruit. Parce qu'ils apprennent très tôt à reconnaître la différence entre faire du bruit et faire des sons.
Oui.
Et voilà.
Est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas réceptifs, justement, à la musique? Ça arrive?
Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui ne sont pas réceptifs, mais avec certains enfants, ce n'est pas toujours quelque chose qu'ils accueillent d'une façon confiante. Alors, parfois, c'est parce que c'est trop fort. D'autres fois, c'est parce qu'il leur faut du temps. C'est-à-dire, ils ne se jettent pas comme ça sur un instrument. Je trouve que j'ai jamais vu un enfant vraiment avoir un rejet pour la musique. Mais en revanche, j'en ai vu pas mal pour qui il fallait un petit temps quand même apprivoiser le phénomène. Quoi.
Oui, oui. Ouais. Et ces cours d'éveil musicaux, ces ateliers, vous les faites où, dans quelles conditions?
Alors, je les fais d'une façon hebdomadaire au Chesnay, dans les Yvelines, mais sinon je le fais un peu partout. Je bouge beaucoup dans les écoles. On m'appelle pour les faire dans des écoles ou dans des festivals ou parfois à l'hôpital aussi. Ça c'est quelque chose qui est très fort. Voilà, d'aller faire des ateliers de musique pour des enfants malades ou des enfants en souffrance. Ouais, c'est
Oui, oui, c'est important.
C'est important. Si la vie pouvait faire qu'on puisse le faire d'une façon régulière et puis le faire souvent, je pense que ce serait formidable. Mm.
Alors aujourd'hui, donc, vous donnez beaucoup aux enfants, vous donnez dans le domaine musical. Est-ce que vous avez un regret justement de ne plus pouvoir être clarinettiste professionnel dans des concerts?
Alors, ce que je regrette juste, c'est que la chose qui me fait le plus frémir, enfin qui me fait le ce que j'aime le plus musicalement, c'est entendre et jouer, entendre un son de clarinette qui sort de l'orchestre. Et quand on est à l'intérieur d'un orchestre symphonique, qu'on a un solo à faire à la clarinette et qu'on est entouré de tous ses collègues musiciens, c'est quelque chose de formidable et qui vraiment donne le frisson. Mais quand on est spectateur, je continue quand même à aller écouter beaucoup de concerts, et ben je ressens aussi ça très fort. Et en fait, la musique, on n'a pas besoin peut-être d'être au cœur, on n'est pas obligé d'être acteur pour la ressentir. Voilà.
Oui.
Donc, des regrets, je m'interdis d'en avoir de toute façon. Déjà, je suis en vie, c'est pas mal.
Mais oui, ouais. Et puis il faut le rester.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, exactement.
Un dernier mot avant de conclure cette émission. Où peut-on on va rappeler tout ce que vous faites et où on peut trouver vos albums musicaux et où on peut bénéficier de vos cours.
Alors,
Morgan Raoult.
J'ai un site qui s'appelle leschansonsdemorgan.com où on peut voir un peu tous les disques qui sont sortis ou tous les livres, parce que je fais aussi des beaux livres pour enfants chez Nathan. On peut trouver donc la maison de disques qui s'appelle Victory Music. On peut trouver mon avant-dernier album qui s'appelle S'il te plaît, merci. On peut trouver aussi La musique en chantant chez Naïve.
Oui.
Et surtout L'enfant de l'orchestre qui vient de sortir chez Victory Music. Mais là, vraiment l'actualité, c'est mon livre qui vient de sortir chez Michalon qui regroupe tout ça. Et en plus, à l'intérieur du livre, on voit du coup tous les autres tous les autres livres ou les disques que j'ai fait ailleurs.
Oui, 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 on peut tout voir effectivement. Merci à Morgan Raoult. Je rappelle le titre Je ne souffle pas, je chante, l'étonnante histoire de Madame Clarinette aux éditions Michalon. Merci d'avoir été notre invitée, Morgan.
Mais merci beaucoup, Carole.
C'était un plaisir de découvrir votre aventure.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.